Bonjour et bienvenue à Café Converse, l'émission en public de C'est le Mag, en partenariat avec Radio Pays d'Hérault, sur une idée originale de Benjamin Karchen, présentée ce mois-ci par Sébastien Rome et Stéphane Pall. Sébastien Rome a été le rédacteur dans C'est le Mag de l'article sur le rythme scolaire et il est à l'initiative du cycle de conférences sur ce thème à l'ODEV. Café Converse est une émission de débat en public venant faire écho aux dossiers traités dans C'est le Mag. C'est l'occasion pour le public de rencontrer certains des interlocuteurs ayant participé à la réalisation du dossier de C'est le Mag. C'est aussi l'occasion d'entrer en conversation avec nous et nos invités. Café Converse se déroule dans le cadre accueillant de ce lieu étonnant qu'est le Temple de l'Expo aux Marches du Palais, situé à l'ODEV, où son propriétaire, Fatna Mirono, nous a installés chaleureusement. Pour ce nouveau rendez-vous de Café Converse, nous allons aborder les questions du rythme scolaire. Entre contraintes de la vie et idéal biologique de l'enfant, comment concilier le grand écart? Pour réfléchir à ces questions, nous avons invité M. Jacques Glaise. Bonjour.
Bonjour, bonsoir plutôt.
Vous êtes professeur d'histoire de l'éducation et chercheur en anthropologie du corps et du sport. Et M. Hubert Montagnier. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du développement et du rythme de l'enfant. Et il y a 2 ans, le gouvernement a décidé de passer à la semaine de 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires. Aujourd'hui, il semble revenir en arrière avec la Conférence nationale sur le rythme scolaire. Monsieur Hubert Montagnier, avez-vous le sentiment d'avoir été entendu?
Non.
Ça commence
malgré
bien.
Malgré les apparences. Je vais m'en expliquer. Oui, je vais m'en expliquer. Il y a donc une conférence nationale sur les rythmes scolaires, dont la composition est pour le moins surprenante. Pensez que dans cette conférence nationale, il n'y a pas un seul spécialiste ou expert du développement de l'enfant. Et comment diable pourrait-on utilement parler des rythmes de l'enfant si on ne parle pas du cadre dans lequel s'inscrivent le rythme, c'est-à-dire l'évolution de l'enfant d'âge en âge, son développement. Je pourrais souligner d'autres carences, d'autres déficits, d'autres manques, mais je me tiendrai à cet exemple-là. Alors, si vous regardez la composition autrement, la plupart des gens n'ont rien à voir avec les rythmes de l'enfant. Ce sont des gens qui inscrivent leur activité dans le tourisme de neige, la SNCF, etc., pour la plupart, pas tous, bien entendu. Et je ne vois donc pas ce qui pourrait sortir au bénéfice de l'enfant des travaux de cette organisation si hétéroclite, si hétérogène. Je crains que, en réalité, des considérations d'ordre économique, pour ne pas dire mercantile, l'emportent, et qu'on va essayer de nous imposer un aménagement du temps qui tiendra davantage compte de considérations économiques que de considérations au bénéfice de l'enfant. Alors qu'en principe, c'est ça qui devrait nous animer. L'école a été instituée pour les enfants. Et si on veut parler des rythmes scolaires, il faut forcément que ce soit des aménagements du temps qui soient fondés sur les réalités constituées par l'enfant. Sinon, ça n'a pas de sens.
Et juste sur la question de la semaine des 4 jours, et ce retour en arrière peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Juste ça, très rapidement.
Disons que l'actuel ministre a été très hésitant avant de créer la conférence nationale sur les rythmes scolaires, puisqu'il a dit son intérêt pour du temps scolaire transféré le mercredi matin, ce que nous souhaitons tous depuis longtemps, à condition que ce soit réduit la durée de la journée scolaire, que d'autres dispositions soient prises. Je crois que c'est important de vous préciser ça. Un mois après, le même ministre nous dit « Mais la journée à l'allemande, c'est pas mal ce truc-là, est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter la journée à l'allemande ?» Et il a donc lancé ce qu'il appelle les expérimentations, au niveau du collège en tout cas, et de certaines écoles élémentaires, sur classe le matin, sport l'après-midi, c'est ça la journée à l'allemande. Alors que les Allemands n'en veulent plus.
Et justement, sur la question suivante, je vais laisser la question à Sébastien Rome pour son intervention.
Bonsoir à tous. Donc, Jacques Glaise, vous avez voyagé et enseigné dans plusieurs pays d'Europe, même aux Amériques.
Plus en Amérique du Sud.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez retrouvé ces organisations à la française un peu ailleurs, ou est-ce que l'état d'esprit fait en sorte que l'organisation de l'école et de la société se déroule autrement?
Bon, si on décide de parler au sens le plus extensif des rythmes scolaires, le professeur Montagnier, dont d'ailleurs j'apprécie beaucoup les travaux, hein, je veux le dire, je parlerai sûrement d'un autre point de vue, mais ça ne...
Profitez-en, il est à côté de vous.
Hein. Oui, mais voilà, ouais. Il n'est pas question pour moi de critiquer les travaux qui ont été réalisés, etc., mais juste les éclairer avec un autre jour. Les pays du sud de l'Europe, en général, travaillent sur des modèles à peu près similaires aux nôtres, c'est-à-dire des modèles avec des journées scolaires assez lourdes, des semaines scolaires assez lourdes. Les pays du nord de l'Europe, on va dire, pour faire une grosse caricature, mais en gros c'est à peu près ça, travaillent avec des journées scolaires beaucoup plus légères et des années scolaires un peu plus extensive, mais par contre également d'une certaine manière plus légère, c'est-à-dire je vais pas citer des chiffres précis et rentrer dans le détail des chiffres, mais dans la même catégorie d'âge, par exemple certains pays européens enseignent 800 heures par an à peu près, alors que la France, dans la même catégorie d'âge, c'est l'âge par exemple autour de 15 ans, enseigne 1050 heures par an. Ça veut dire qu'on est en termes de masse d'horaires d'enseignement depuis assez longtemps. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez ancien de la situation française. Ça a commencé dans les collèges jésuites. Il faudrait revenir refaire toute l'histoire du système éducatif. Je vais pas la refaire en entier, mais on a massifié les horaires de cours de manière très très importante. Et l'école de Jules Ferry, bizarrement, a pas remis en cause cette façon de fonctionner qui était héritée des collèges jésuites, etc., où les enfants avaient une masse d'horaires de cours très importante. Bon, les autres pays, visiblement, ont fait d'autres choix. Bah, par exemple, la Finlande a un horaire bien moins important. Alors, je vais peut-être pas parler de ça tout de suite, mais parce que sinon je vais vous couper peut-être l'herbe sous le pied sur des questions. Mais par exemple, dans les enquêtes PISA, la Finlande a des résultats. Alors après, il faut les nuancer, ces enquêtes PISA. Il y a plein de biais, enfin, etc. Mais elle a des résultats.
Vous pouvez rappeler en deux mots ce que c'est les enquêtes PISA?
Oui. Alors, c'est les enquêtes en fait qui permettent d'évaluer les progrès des élèves. Ça veut dire
au niveau international.
Programme voilà. International de suivi des acquis des élèves. Programme international de suivi des acquis des élèves, oui. Et qui vérifie au niveau des pays de l'OCDE, entre autres, les acquis des élèves à 10 ans et les acquis des élèves à 15 ans. Voilà, donc la Finlande a des résultats scolaires au moins aussi bons que les nôtres, même peut-être meilleurs, et pourtant leur horaire scolaire est bien plus bas que le nôtre. Voilà.
D'accord. Donc des questions à reposer, notamment donc du point de vue déjà de l'organisation de l'école. Hubert Montagnier, par quelle phase passe un enfant de la petite enfance, on va dire de 6 ans, un enfant 6-12 ans, un adolescent déjà, est-ce qu'il y a des différences entre ces enfants-là dans le rythme de la journée? Est-ce qu'ils ont des besoins différents de sommeil, de repos, de pic d'attention? Est-ce qu'ils changent? Est-ce qu'ils ont besoin d'activité physique différemment? Enfin, comment se déroule un peu la journée pour ces trois tranches d'âge?
Alors, il y a évidemment des différences qui sont liées à l'âge, mais pas seulement, qui sont liées aussi au développement particulier de chaque enfant. Trop souvent, on confond les deux, alors qu'on ne doit pas les confondre. Maintenant, il y a des points communs, similaires, identiques, selon ce qu'on considère. Alors, pour faire vite, les dénominateurs communs, on les connaît bien, il s'agit des temps faibles et des temps forts de ce qu'on appelle la vigilance, c'est-à-dire de la capacité d'alerte par rapport à l'environnement. Vigilance qui va faire qu'un enfant va être en alerte par rapport à son environnement et donc attentif à son environnement. Pensez que au cours préparatoire, les enfants entre 6 et 7 ans, on peut estimer à peut-être 3 heures par jour la quantité de temps pendant lesquels ils peuvent être réellement vigilants par rapport à l'environnement et donc attentifs et donc susceptibles de capter, de traiter les informations, de comprendre et d'apprendre.
Petite précision, trois heures consécutives.
Alors non, justement, vous faites bien de poser la question. Alors, les chercheurs ont essayé de comprendre ce qui se passait tout au long des 24 heures et non pas seulement pendant le temps scolaire. Lorsque les enfants sont à l'école, on constate qu'il y a deux temps forts dans la vigilance et les capacités d'attention. Le premier, c'est le matin. Tout le monde peut le constater facilement. Il va de 9h ou 9h30 à 11h, 11h30, midi, selon l'âge. Et le deuxième va de 14h, 14h30 ou même 15h jusqu'à 16h, 16h30, selon l'âge. Donc, deux temps forts.
Il faudrait limiter le temps de classe à ces pics de vigilance.
Mais ce n'est pas la quantité de temps passé en situation d'apprentissage formaté qui va faire qu'un enfant va mieux comprendre et apprendre. Et ça, c'est une erreur que commettent beaucoup de personnes. Quand je vois des enfants qui suent sang et eau sur un texte qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas envie de comprendre, qu'ils ne veulent pas comprendre, ben c'est pas parce qu'on va le maintenir une heure ou deux heures devant ce texte-là qu'il va apprendre mieux et plus efficacement. C'est pas vrai, ça on le sait. Alors, on va revenir plus précisément là-dessus, mais par rapport à ces deux temps forts, on pourrait très bien imaginer qu'au cours préparatoire, par exemple, il y ait deux heures de temps fort le matin, entre 9h30 et 11h30, on est à peu près sûr que la très grande majorité des enfants sont vigilants à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire qu'il fallait se désintéresser des autres, bien entendu. Ça, on pourra en parler tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et puis l'après-midi, on pourrait penser à une heure l'après-midi, entre 15h et 16h, par exemple. Et là, l'enfant de CP, il aurait son compte, si j'ose dire. Il aurait pu mobiliser utilement sa vigilance, ses capacités d'attention, ses capacités de traitement de l'information pendant un temps qui ne le fatigue pas, qui ne l'épuise pas, qui ne le stresse pas, qui ne le démotive pas. Parce que ce qu'on demande de trop, de plus à un enfant, ça va se traduire en termes négatifs. Les enfants ne sont pas les ordinateurs, ne sont pas des transistors, sont des êtres de chair et de sang, bien entendu. Alors par rapport à ça, il y a trois temps un peu particulier qu'il faut regarder en face. Le matin, il faut à chaque enfant un temps qui lui est propre pour finir de se réveiller, comme on dit communément, c'est-à-dire pour revenir suffisamment vigilant, pour être assez attentif et ainsi pouvoir traiter les informations données par le maître, c'est-à-dire en saisir le sens et la signification, et ainsi devenir un élève.
Donc, qu'il soit accueilli de manière souple et à l'aise dans l'école.
Alors, c'est important, hein, c'est important pour nous de bien prendre conscience que le matin, c'est un temps particulier, propre à chaque enfant. On ne peut pas globaliser. Il y a des enfants qui arrivent à l'école à 8h30, qui sont prêts à mobiliser leur vigilance, leur capacité d'attention et à se réaliser comme élèves. Il y en a d'autres qui, à 9h15, 9h30, sont toujours à la recherche d'une vigilance suffisante. Alors, qui sont ces enfants? On en parlera tout à l'heure, si vous voulez, on les connaît bien. Donc, la première heure à partir de l'entrée dans l'école, est une heure très particulière qu'il faudrait aménager en prenant en compte les particularités des différents enfants.
Avant de rentrer dans le détail pédagogique de l'école, restons sur les parties de phase, d'attention, de rythme de l'enfant, suivant les trois critères d'âge qui ont été donnés tout à l'heure.
C'est ce que j'étais en train de faire.
Ça rentrait un petit peu plus dans
le temps
dans
du
l'intention
matin.
Ou les intentions des enseignants, plutôt que le besoin de l'enfant.
Ah ben oui, moi ce qui m'intéresse c'est les besoins de l'enfant, parce que l'école a été instituée pour les enfants, c'est aux enseignants de s'ajuster, c'est aux enseignants de s'adapter, c'est à l'institution scolaire de s'adapter, quoi qu'on dise, sinon on n'y arrivera jamais. Donc le temps qui précède l'école le matin est un temps très délicat, très difficile à gérer, et c'est pour ça que personnellement je considère qu'il faudrait le considérer comme un temps sujet. C'est-à-dire un temps à aménager selon les particularités des différents enfants et que les enfants choisissent de meubler ce temps comme ils l'entendent. En se sentant en sécurité affective, j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Le deuxième temps faible, c'est la pause méridienne qu'on traite par-dessous la jambe. C'est pas seulement le temps de la consommation alimentaire. C'est un temps très particulier que nous vivons tous. Quoi qu'on veuille faire, c'est un phénomène chronobiologique, là. Alors, au sens parfait du terme, on sait depuis 60 ans, 70 ans, vous voyez, c'est pas nouveau, qu'il y a un affaissement de la vigilance du cerveau. Le cerveau se met en vacances, il, vous savez, vous comme moi d'ailleurs, et ça n'est pas les entrées alimentaires du déjeuner qui créent cet affaissement de la vigilance, même si un repas copieux ne fait qu'accentuer la baisse de vigilance. Deuxièmement, il y a une résurgence du dernier épisode de sieste, qui se traduit pas forcément par la sieste, mais par une tendance à somnoler, voire à s'endormir. Et ceci n'est pas étonnant parce que, troisièmement, il y a une augmentation de la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la mélatonine et que l'on qualifie d'hormone du sommeil. Et comme son nom l'indique, elle joue un rôle important dans le sommeil. Et enfin, quatrièmement, et ça nous l'avons montré déjà il y a plus de 20 ans, il y a une augmentation importante du rythme cardiaque. Pensez que chez les enfants du cours préparatoire, à 14 heures, leur rythme cardiaque est 3 à 5 fois plus élevé que 10 ou 11 heures le matin. Et nous savons tous bien ici qu'une augmentation trop importante du rythme cardiaque ne permet pas que nous orientons utilement par rapport à l'environnement et que nous puissions mettre notre corps en mouvement pour en tirer un bénéfice au plan ludique et sportif, par exemple.
Donc, pas de cours de sport à 2 heures de l'après-midi.
Mais c'est une ineptie, c'est une erreur. Le corps n'est pas préparé à ça. Donc, la pause méridienne, il faudrait la traiter complètement en pensant à l'enfant dans tous ses aspects. C'est pas seulement un temps qui doit être dévolu à l'alimentation. C'est un temps qui doit être un temps de détente, d'apaisement, de réassurance, de sécurité affective ou de retour à la sécurité affective. Un temps où on puisse laisser l'enfant sous sa tente, si j'ose dire. Et puis il y a un troisième temps qui n'est pas favorable, c'est après 16h30, 17h, les enfants sont fatigués, épuisés, surtout dans une journée scolaire comme celle de la France, qui est la plus longue du monde, puisque les enfants doivent y passer 6 heures de temps contraint, n'ont pas le droit de choisir. Même le temps de la récréation est un temps contraint, puisqu'on les fait évoluer dans un espace où il n'y a pas d'aménagement, où ils puissent se réaliser en tant qu'individus. Ça n'a pas de sens, c'est aberrant. Alors que, le moment de 16 heures à 20 heures se caractérise par une augmentation du métabolisme, qui se traduit par une augmentation de la température corporelle. Si vous prenez la température de votre corps à intervalles réguliers, il n'est pas nécessaire de sortir un thermomètre ici tout de suite, vous constaterez que la température s'élève entre 16h et 19h, 20h, ou un peu plus tôt, un peu plus tard, selon les individus. C'est à ce moment-là que se situe le maximum de la force musculaire et que les coordinations motrices sont optimales. Autrement dit, c'est un temps impeccable pour la pratique du sport et pour la pratique des activités ludiques qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et vous savez à quel point les enfants peuvent s'épuiser tellement ils se font plaisir en faisant ceci ou cela. Ils courent comme des fous, etc. Ils en sortent épuisés. Et les activités ludiques explosives, c'est là qu'on devrait leur proposer les choses. Donc voilà 2 temps forts et 3 temps faibles au cours de la journée scolaire. Et on les connaît bien et depuis longtemps. Et nous demandons, mais c'est pas si compliqué que ça quand même, de repenser l'organisation de la journée scolaire et en même temps de la semaine et en même temps de l'année pour que le premier vainqueur, le premier bénéficiaire soit l'enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ignore la famille, ce qui ne veut pas dire qu'on ignore les enseignants.
Non, justement, Jacques Luez, vous avez formé des enseignants dans...
Je fais même que ça.
Voilà. Et donc, par rapport à ce que peut nous dire Hubert Montagnier, là, avant même de revoir finalement les horaires de classe sur la semaine et sur la journée, est-ce que déjà le premier travail à faire n'est-il pas de repenser les emplois du temps, les séquences pédagogiques, justement, en rapport à ces données scientifiques?
Alors, très probablement. Moi, je pense qu'il y a quand même 2 façons de voir les choses. Enfin, je ne vais pas rentrer dans une critique des travaux du professeur Montagnier, mais je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses.
Non,
parce que je suis absolument incapable de les critiquer, parce que je n'entends rien à la chronobiologie, etc. C'est quelque chose où je suis absolument ignare, donc je le ferai pas. Mais ma vision, c'est qu'en fait, il y a quand même chez l'être humain, il y a 2 facettes des choses toujours. Il y a la facette biologique qui est notre animalité en quelque sorte, et puis il y a la facette sociale, spécifiquement humaine, qui est le langage, la culture, etc. Et bon, je pense que on me contredira pas là-dessus. Si on est homo sapiens sapiens, c'est justement parce qu'on n'est pas que biologie. Si on était que biologie, en fait, on serait toujours autre chose que sapiens sapiens. On sera Homo erectus. On serait voilà. Enfin, voilà. Donc, mon idée, c'est qu'il y a aussi des éléments. En fait, il y a un dialogue qui s'établit. Je vois les choses comme ça. Il y a toujours un dialogue qui s'établit entre la chair et le verbe.
C'est-à-dire entre l'environnement social.
Ce que je veux dire, c'est entre la culture, les techniques culturelles, etc. Et la structure biologique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point. Bon, je donne un exemple. Si je vais vivre en Amérique du Sud, ce qui m'arrive assez souvent pour mon travail, il y a 4 heures de décalage horaire, 5 heures de décalage horaire, je vais arriver à recaler mon corps. Je n'ai pas dit que ça transformait les biorhythmes, mais je vais arriver à recaler mon corps et à le remettre sur une autre pendule. Et ça, d'une certaine manière, c'est lié à mes voyages et à des technologies et techniques humaines. Alors, je dis pas que les enfants peuvent faire ça dans l'absolu, mais il me semble que la question, entre guillemets, elle est plus complexe qu'une seule question de rythme biologique. C'est-à-dire, c'est probablement aussi une autre question, c'est-à-dire, c'est la question des formes de culture aussi qui vont être données dans l'école. Donc, j'arrive à votre question. Il me semble les formes de culture, effectivement, il n'y a pas qu'une méthode pédagogique. Il y a beaucoup de méthodes pédagogiques. Il y a les méthodes Freinet, les méthodes Montessori, les méthodes de Crowley, il y en a des dizaines. Et ces méthodes pédagogiques, entre guillemets, certaines sont plus tolérantes, me semble-t-il, au rythme de l'enfant que d'autres. Mais les méthodes qu'on a utilisées pendant très longtemps dans le système éducatif français, ce sont des méthodes plutôt, on va dire, globalement, pour faire vite et en vrac, je sais que ça marche plus comme ça depuis longtemps dans beaucoup de classes, mais des méthodes transmissives. Et les méthodes transmissives exigent, par exemple, un niveau d'attention extrêmement fort des élèves. Et évidemment, ces méthodes-là, dès lors qu'on pose la question des rythmes biologiques, si on est dans une nécessité d'avoir une attention très importante parce qu'on va avoir une méthode très transmissive, de l'élève ou de l'enfant, évidemment, à ce moment-là, il faudra être dans un rythme biologique absolument d'éveil complet pour pouvoir s'approprier les connaissances. Par contre, dans d'autres circonstances et avec d'autres types de méthodes, cette question se pose beaucoup moins. Voilà.
Est-ce que vous êtes en train de dire simplement qu'on peut contraindre l'enfant à suivre son rythme via l'exemple que vous avez donné ?
Ah ben voilà, je sais pas, je crois que je peux pas parler là-dessus. Enfin, encore une fois, je vais pas parler sur des questions de chronobiologie parce que je suis incompétent. Mais je pense que en tous les cas, on peut pas négliger la question de la structure culturelle de l'école. On peut pas négliger cette question-là. Il y a beaucoup d'éléments qui sont hérités de faits historiques. Enfin, je donne une question toute bête. Je sais pas si vous savez. Beaucoup de gens le savent, j'imagine, mais si vous savez pourquoi en France, on a par exemple une heure de décalage avec le méridien de Greenwich.
Non.
Bon, eh ben voilà. D'abord, on devrait pas avoir une heure de décalage avec le méridien de Greenwich, enfin même avec l'heure solaire de Paris, admettons. Hein, c'est à peu près le centre de la France. On devrait à peu près l'heure solaire de Paris. Or, vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a été occupée par les Allemands. Donc la France s'est mise à l'heure du méridien de Berlin. Et depuis le méridien de Berlin, nous n'avons pas changé. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a des éléments culturels qu'on peut ne pas valider, mais qui sont là et donc sur lesquels, d'une certaine manière, on a fini par, avec beaucoup de temps, par caler nos rythmes. Quoi. Enfin, j'ai l'impression.
Alors, bon. Le corps donc serait que le réceptacle finalement de la société. Finalement, les rythmes n'étant pas si biologiques, c'est les rythmes de.
Mais c'est vous qui parlez de chronobiologie. Moi, j'ai pas utilisé une fois le mot. Moi, j'ai utilisé le terme rythme biologique et j'aurais dû dire rythme biopsychologique parce qu'il y a une composante biologique et une composante psychologique dans quasiment tous les rythmes de l'enfant, sauf ceux qui relèvent de la chronobiologie sensu stricto. Alors, c'est difficile à expliquer pour le profane, mais c'est important. C'est pas un détail du tout. Alors, je m'explique. Pour moi, il y a justement une erreur qui est commise dans le système scolaire en permanence, c'est de vouloir faire passer la pédagogie avant tout. Pour moi, c'est pas ça la question majeure. La question majeure, c'est de bien prendre en compte les facteurs humains pour que la pédagogie soit efficace au niveau de tous les enfants. On ne peut pas continuer à factionner les facteurs humains comme on le fait maintenant. Or, s'agissant des rythmes de l'enfant, il y a deux grandes catégories d'enfants qui ont des difficultés à ajuster leur rythme à ceux de l'environnement. Il y a les enfants qui souffrent d'un déficit cumulé de sommeil, on peut pas l'éviter, et il y a les enfants qui vivent chez eux dans l'insécurité affective, c'est-à-dire qui ont le sentiment d'être abandonnés, délaissés, ignorés, maltraités, en danger. Et ces deux aspects-là modifient tout, gouvernent tout. Je m'explique. C'est pas par hasard si l'un des rapports PISA paru il y a quelque temps fait état de 40% d'enfants qui souffrent d'insomnie. Ça rejoint d'ailleurs des chiffres que nous avons, nous, à très peu de choses près. Beaucoup d'enfants manquent de sommeil pour des raisons liées à l'évolution de la société qui est devenue ce qu'elle est. C'est-à-dire une société dans laquelle on vit dans l'urgence, une société dans laquelle on est toujours en train de courir après le temps, et ça, les enfants n'arrivent pas à situer leur temps dans une société qui court après le temps.
On verra le détail justement du rythme de l'impact impacté sur
oui,
la société.
Oui, mais je tiens à répondre parce que là c'était une caricature et je ne peux pas accepter la caricature qui a été présentée. Dites-vous bien que le matin, les enfants qui souffrent d'un déficit de sommeil, on les reconnaît à 9h, alors que l'entrée de l'école se fait à 8h30. Ce sont les enfants qui baillent beaucoup et comme je dis, quelquefois sont une boutade, c'est alors qu'on reconnaît les bailleurs de fond. C'est les enfants qui traduisent leur manque de sommeil ou les troubles du rythme veille-sommeil par d'autres indicateurs, s'affaler sur la table, fermer les yeux ou s'endormir quelquefois. Moi j'ai vu les enfants s'endormir en classe à 9h. Ce sont les enfants qui souffrent d'un déficit cumulé de sommeil, comme nous avons pu le vérifier, ou les enfants qui souffrent de troubles du rythme veille-sommeil, c'est-à-dire qui mettent du temps à s'endormir le soir parce qu'ils sont inquiets, anxieux, je vais y revenir dans quelques instants, ou qui se réveillent une fois ou plusieurs fois dans la nuit avec des cauchemars ou des terreurs chez les enfants. Ces enfants-là sont en difficulté. Ils sont en difficulté de capacité à être vigilants, à être attentifs, à pouvoir mobiliser leur capacité intellectuelle par rapport au massage humain. Comment voulez-vous qu'un enfant qui souffre d'un déficit cumulé de sommeil tous les jours, toutes les semaines, puisse vraiment être attentif au message du maître, fût-il le meilleur pédagogue du monde, et quelles que soient les méthodes qu'il utilise pour transmettre le savoir et les connaissances. Deuxième profil d'enfant. Ce sont ceux qui souffrent d'insécurité affective, sont souvent les mêmes d'ailleurs. Donc ceux qui arrivent à l'école avec un matelas d'insécurité affective. C'est comme ça qu'on dit un empilement d'insécurité affective. C'est-à-dire que ces enfants vivent dans un milieu familial qui cumule les difficultés. C'est maman qui est malade, ou très malade, ou qui craint de l'être. Même chose pour papa. Et il faut savoir que les enfants sont très attentifs à l'état de santé de leurs parents parce qu'ils craignent de les perdre. Et quand ils entendent leur mère émettre l'hypothèse qu'il va falloir qu'elle soit hospitalisée, opérée, que ce soit, même chose pour le père, ça les insécurise beaucoup. Si je vous donne cet exemple, c'est parce qu'on le trouve dans toutes les classes sociales. Maintenant, en plus de ça, vous avez des enfants qui vivent dans un milieu familial où il y a la pauvreté, où il y a la misère. C'est-à-dire dont les parents sont inquiets, sont anxieux, sont angoissés, sont dans l'angoisse, parce qu'il n'y a pas trop comment ils vont réussir à joindre les deux bouts à la fin du mois. Des enfants qui vivent dans un milieu familial où la mère et le père sont en conflit récurrent, en conflit permanent et important et aigu. Ou alors des enfants qui sont agressés par la fratrie. Vous avez toutes sortes de phénomènes qui, dans le milieu familial, et c'est en relation avec des facteurs sociaux et culturels, toutes sortes de phénomènes qui font que l'enfant, certains enfants, s'enferment dans un état d'insécurité affective. Et l'une des fonctions de l'école serait de créer les conditions pour permettre à ces enfants-là de relativiser leur insécurité affective ou de la dépasser ou de la déminer. C'est ce qu'on ne sait pas faire. Alors, comment ces enfants traduisent leur insécurité affective à l'école? Eh bien, ou bien ils se replient... Il faut que je continue, sinon ça n'aura pas de sens. Ou bien les enfants se replient sur eux-mêmes, ou bien ils s'enferment dans l'évitement et la fuite, ou bien ils deviennent hyperactifs, comme on dit, c'est un terme qu'il faut éviter, qu'on réserve aux enfants psychotiques. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas en place, ils sont turbulents et on ne supporte pas leur turbulence. Ou bien alors ils enchaînent agression et destruction. Se replier sur soi, se développer dans l'évitement et la fuite, développer le mouvement pour le mouvement, à un point tel qu'on en est prisonnier, enchaîner les agressions, destruction à un point tel qu'on se voit qualifié de violent. Mais tous ces phénomènes-là font que, à 9h du matin, les enfants très insécures ne peuvent pas se réaliser comme élèves. Alors en même temps, un enfant très insécure qui manque de sommeil, ça vous pouvez lui proposer n'importe quelle méthode pédagogique, il faut qu'il ait un temps suffisant pour pouvoir se réaliser comme élève et pouvoir dépasser ces deux contraintes qui sont énormes. Oui, mais c'est important parce que c'est le fond du débat. Alors, ça ne veut pas dire que je nie l'importance des méthodes pédagogiques, pas du tout.
Cela dit, c'est vrai que là, c'est des phénomènes qui sont extérieurs à l'école où donc ça met les enfants dans une situation qui sont de leur bagage, mais pas forcément sur le rythme scolaire.
Mais parce qu'en plus, les enfants qui souffrent d'insécurité affective dans le milieu familial, quelquefois ils souffrent d'insécurité affective dans le groupe de copains et de copines, parce qu'ils sont rejetés par les copains et copines, ils sont soumis à du racket, et ils souffrent d'insécurité affective du fait qu'ils perçoivent l'école comme les rejetant, comme les aimant pas, et même chose pour l'instituteur ou l'institutrice, malgré ses qualités humaines par ailleurs. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la tête d'un enfant. C'est ça
qui
est important.
Là, on quitte un petit peu le
parce que vous
ne pouvez
pas, vous ne pouvez pas parler d'un élève si vous ne parlez pas d'abord d'un enfant. L'élève, c'est pas un élève désincarné. C'est un enfant qui doit se réaliser comme élève au sein de l'école. Mais c'est d'abord un enfant.
Oui, et donc justement en termes d'enfant, quel est le rythme idéal pour justement éviter ce stress avant l'école ou ce stress tout simplement de son quotidien?
Il n'y a pas de rythme idéal. Il y a un ensemble de mesures qu'il faut faire avancer au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de la société qui accueille l'enfant en dehors de la famille, en dehors de l'école. Ça veut dire que là, les mairies doivent s'impliquer, les associations, les clubs sportifs, etc. Ça fait longtemps qu'on propose que chaque école se transforme en écosystème, c'est-à-dire en un lieu de vie et pas seulement un lieu d'instruction.
On verra cette question un petit peu plus tard, mais elle sera liée forcément.
Je peux dire quelque chose ?
Bien entendu. Oui.
C'est toujours pas en contradiction, c'est des éléments en plus, en fait, que j'essaye d'apporter des pierres de plus à l'édifice. Il y a quand même quelque chose que dit le professeur Montagnier, qui est... qui du coup devrait avoir une validité dans toutes les écoles du monde. Oui. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, ça devrait se vérifier au Danemark, en Suède, en Norvège. Et oui, mais ça se vérifie pas. Non, j'explique pourquoi ça se vérifie pas. Parce que au Danemark, il y a 85% des enfants qui vont à l'école avec un grand plaisir. Et en France, il y a 35% des enfants qui vont à l'école avec un grand plaisir. C'est-à-dire soit l'autre pourcentage, il va avec mal au ventre, angoisse, souffrance, etc. Ouais. Voilà.
Comment expliquez-vous en fait cette différence?
Voilà, c'est-à-dire que cette chose-là, si elle était entre guillemets uniquement biologique, eh ben évidemment les enfants dans tous les pays du monde auraient la même souffrance psycho-affective. Et ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire que vous dire que c'était pas uniquement biologique.
Non, mais d'accord, mais je viens de dire psychobiologique d'ailleurs. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est l'aspect entre guillemets de la structure pédagogique de l'école elle-même joue un rôle sur la souffrance de l'enfant. Et donc, en fait, on peut arriver dans l'école en ayant peut-être des soucis individuel, d'insécurité affective, mais ensuite l'école peut pallier à ces questions d'insécurité affective en mettant les élèves dans une sécurité affective. Ce que me semble faire, par exemple, l'école danoise, 85% des élèves y vont avec plaisir. Et quelle est la différence, par exemple, entre l'école danoise et la nôtre? Elle est très simple. Entre 6 ans et 16 ans, les élèves sont jugés en termes de compétences, mais jamais notés. C'est-à-dire qu'en fait, on valide le niveau de compétences qu'a acquis un élève, mais on ne lui met pas de notes. Et dans notre école, par exemple, un des éléments qui fait souffrir les élèves, c'est cette question de la notation. Cette question rajoute de la souffrance psycho-affective sur la souffrance psycho-affective existante dans des familles défavorisées. Autre chose, des enfants de milieux défavorisés arrivent à l'école en ayant mal au ventre la plupart du temps. Ce n'est pas le cas d'enfants de familles bourgeoises.
Si.
C'est beaucoup moins le cas. On a des pourcentages du type 7-8% dans les familles bourgeoises, 45% dans les familles défavorisées. Donc en fait, ces choses-là veulent dire que l'école, entre guillemets, est une souffrance pour certains et pas pour tous.
Ou devenez tous des bourgeois.
Voilà. En tout cas,
il y a consensus pour dire...
Je suis en désaccord, là. Je suis vraiment en désaccord. Parce que je suis aussi allé dans les pays scandinaves. Il y a deux choses qui les distinguent fondamentalement de nous. C'est qu'ils savent attendre qu'un enfant soit prêt à entrer dans un apprentissage. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas, comme chez nous, le cours préparatoire couperet. Chez nous, on a décidé que les enfants devaient apprendre à lire, à écrire et à compter avant la fin du cours préparatoire. Au nom de qui, au nom de quoi? Rien dans le développement de l'enfant ne permet de le dire, absolument. Eux, ils savent accepter l'idée et la réalité qu'un enfant est prêt à lire à 5 ans, pourquoi l'empêcher? Ils sont prêts à accepter l'idée et la réalité qu'un enfant ne soit pas prêt à apprendre à lire avant 7 ou 8 ans, ben pourquoi pas? Et ça, ça marche. Parce que l'enfant se sent apaisé, rassuré, et il n'a pas chez lui une pression telle qu'on lui dise « Écoute, tu fous rien à l'école, tu es un mauvais élève, etc. » Tu comprends, on est à la fin du cours préparatoire, tu ne sais toujours pas lire, tu ne sais toujours pas compter, etc. Parce que la pression au niveau de la famille, c'est une source d'insécurité affective dont je parlais tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que comme on sait accueillir les enfants là-bas, comme on ne sait pas les accueillir ici, eh bien, on les rassure, on les apaise, on leur permet pas la même de prendre confiance en soi, de prendre confiance dans autrui, de développer peu ou prou de l'estime de soi. Et à partir de ce moment-là, les enfants pensent d'abord à libérer leurs émotions imbriquées dans le langage oral. Et c'est là qu'on voit l'une des fonctions importantes du langage oral qu'on ne souligne quasiment jamais, puisqu'habituellement on parle du langage en tant que vecteur de la communication et de la pensée, alors que ça joue aussi un rôle important dans la transmission des émotions. Et ça, c'est important qu'un enfant puisse avoir la possibilité de libérer sans retenue ses émotions, ce qu'il a en fait dans son inconscient et dans son conscient, dans sa tête, en même temps que son langage oral. Et c'est pourquoi, intuitivement, beaucoup d'enseignants utilisent le conte, la narration par exemple. Hein. Ils mettent en scène un personnage comme ceci ou comme cela, et les enfants, quand ils sont captivés par l'histoire, vont poser des questions sur ce qu'ils perçoivent, sur les états émotionnels qu'ils perçoivent chez les personnages dont on raconte l'histoire. Tout se passe comme s'ils cherchaient à partager les émotions des personnages. Et en essayant cela, ils parlent. Et c'est à ce moment-là qu'on constate, mais cet enfant-là, mais il a du vocabulaire, mais il organise sa phrase selon les règles de la grammaire et de la syntaxe, et comme M. Jourdain faisait de la prose. Et autrement dit, par un processus comme ça, les enfants non seulement apprennent à bien parler, mais ont envie de bien parler. Donc, et c'est ça qui distingue fondamentalement les pays scandinaves de nous. C'est deux processus.
En écoutant donc les besoins des enfants, plus que... n'avez-vous pas peut-être peur qu'avec cette question des rythmes scolaires qui est en train d'être mise sur la table, on ne soit pas finalement dans la recherche d'une école où on essaye d'optimiser, de repérer les moments où l'enfant va être le plus captif pour pouvoir rentrer dans son travail, d'optimiser ses capacités, de rentabiliser son temps, aussi bien le temps de repos que le temps d'activité. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette culture-là qui est en train d'émerger avec la question des rythmes scolaires, d'optimiser, d'être dans la performance pour les élèves?
Mais c'est pas du tout ce que je vous ai dit.
Je pose la question à savoir si
il y a des moments dans la journée où les enfants sont plus réceptifs qu'à d'autres moments. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tout le monde. Alors je vous ai dit quels étaient globalement ces deux moments, et je vous ai dit que la durée de la réceptivité variait selon l'âge, mais aussi selon les individus. Mais il n'empêche qu'il faut quand même profiter de ces deux moments de plus grande réceptivité pour que les enfants soient d'une situation telle qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'on leur enseigne. C'est pas une question de rentabilité, c'est une question de bien ancrer les apprentissages dans le cerveau. C'est ça. Alors profitons des moments où les enfants sont plus disponibles, plus réceptifs que les autres. Et ça serait stupide de ne pas en tenir compte. Moi, je suis désolé, mais les enfants sont plus réceptifs à 10 heures du matin qu'ils le sont à 9 heures. Ils sont plus réceptifs à 15 heures qu'ils ne le sont à 14 heures. C'est comme ça. Et ça, c'est lié au rythme biologique que j'ai essayé d'évoquer. Donc, ce n'est pas une question de rentabilité.
Monsieur Glaise, vous disiez tout à l'heure que si on aménage correctement le contexte, l'enfant a une capacité d'apprentissage qui est pas forcément optimisée, mais en tout cas en grande réceptivité. Est-ce que cet aménagement, finalement, du contexte ne permet pas un meilleur apprentissage sans être dans une optimisation du rythme ?
Bon, moi, de toute manière, je pense que ça dépend ce qu'on attribue comme fonction à l'école. Bon, d'abord, premièrement, je pense qu'il faut nuancer parce que déjà, il y a pas, pour moi, il n'y a pas l'école, mais il y a des écoles parce que des tas de méthodes différentes sont appliquées dans les différentes écoles. Les enseignants souvent finissent par faire des mixtes de différentes écoles. Mais bon, voilà, de différentes façons de procéder, de mélanger des méthodes freinées, etc. Mais selon ce qu'on attribue comme fonction à l'école, évidemment, je donnerai pas la même réponse. Si la fonction de l'école, elle est transitive, c'est-à-dire ou presque, je vais utiliser un mot un peu sophistiqué, eschatologique, c'est-à-dire pour l'au-delà de l'école, c'est-à-dire qu'elle fonctionne pour l'au-delà de l'école, pour l'après-école. En fait, dans ce cas-là, et toujours pour. Alors, pourquoi pour la pré-école ? Pour un métier, pour vivre en société, pour être un être humain respectable. Pour quelle raison ? Voilà. Donc, en fait, si on se pose la question de à quoi sert l'école, on va pas donner la même réponse. Si on se pose la question, est-ce que l'école sert à l'école ? Est-ce que l'école ne sert qu'à l'école ? C'est-à-dire qu'elle sert à fabriquer de l'école. Donc, dans ce cas-là, c'est la fonction, on peut dire, immanente de l'école. Hein, l'école, en tant que telle, on est à l'école pour apprendre à fonctionner dans une école. Ce qui est une fonction de l'école aussi. Michel Lobreau a écrit là-dessus, enfin, etc. Donc, selon la fonction qu'on attribue à l'école, évidemment, on ne va pas faire fonctionner l'école de la même manière. Si on lui attribue une fonction uniquement, je vais reprendre le même mot, fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'elle a pour but de mieux faire fonctionner dans la société, ou de mieux faire fonctionner la société, à ce moment-là, il faut qu'elle soit ultra-performante sur le plan fonctionnaliste. Si on lui attribue comme fond de permettre le bien-être de l'enfant, à mon avis, c'est toujours les deux à la fois, dans ce cas-là, il va falloir trouver des équilibres suffisants. Et là, alors, par contre, là-dessus, je suis en total accord. C'est-à-dire que je conteste pas qu'il y ait des moments plus favorables, etc., hein, que les choses soient claires. En fait, selon la fonction qu'on attribue à l'école, si on pense, par exemple, au bien-être de l'enfant dans l'école, on va penser à équilibrer des moments d'attention avec des moments d'équilibre, des disciplines d'attention avec des disciplines d'équilibre, des disciplines sensorimotrices avec des disciplines plus intellectuelles, etc., etc. Et évidemment, en essayant de tenir compte des capacités d'apprentissage des enfants, des capacités motrices des enfants, des capacités intellectuelles des enfants. Voilà. Je dis pas autre chose. Je suis en train de parler d'un autre point de vue. C'est-à-dire que si on pense la structure de l'école, si on pense la structure de l'école uniquement comme des disciplines qui se succèdent avec les mathématiques, le français, l'apprendre, dans ce cas-là, évidemment, c'est qu'une fonction intellectuelle et à la limite eschatologique. Mais s'il y a la question du bien-être de l'enfant, dans ce cas-là, on peut accepter qu'il ait plein de temps où les apprentissages, les activités d'attention ne soient pas prépondérantes.
Mais si l'on fait l'hypothèse que effectivement on arrive à réduire le temps de la journée scolaire avec les nouvelles formes d'organisation de la vie familiale, est-ce que finalement les enfants vont pas se retrouver toujours dans des lieux d'accueil, en garderie, et finalement leur journée va être rallongée parce que les parents travaillent toujours, parce que ils travaillent loin, parce qu'ils ont des horaires atypiques, hein.
Ça, c'est la caricature d'un enseignant qui ne veut pas se remettre en question.
Ah.
Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes en présence de Monsieur Hubert Montagnier, de Jacques Glaise, confortablement installé au marché du Palais, à l'Odève. Voilà. Donc, c'était pour la petite pause où il y a pas mal d'enseignants qui ont réagi.
Non, mais ça fait des années qu'on n'arrête pas d'écrire qu'il faut redéfinir les finalités de l'école. On fait comme si elles devaient être les mêmes que sous Jules Ferry ou même avant. On fait exactement les mêmes. Il ne faut pas oublier que Ferry était un grand bourgeois qui avait bien vu quelle pouvait être la fonction de l'école par rapport à une société qui avait pour objectif l'individualisme, la compétition, le maintien des privilèges acquis, même si c'était la République.
D'ailleurs, il y avait deux écoles. L'école du peuple ne devait pas permettre aux gens du peuble d'arriver à un certain niveau social.
Alors, il serait temps qu'on quitte l'école de Jules Ferry pour réfléchir à ce que devrait être une école moderne. faites pour les enfants. Parce qu'encore une fois, le système scolaire a été institué pour les enfants. Il n'a pas été institué pour les enseignants, il n'a pas été institué pour les parents ou les familles, il n'a pas été institué pour les hommes ou les femmes politiques, il n'a pas été institué
pour la République. Hein.
Ouais. Alors comment intégrer justement...
Je suis un républicain depuis tout le temps. je dis que notre République... Il faudrait qu'elle devienne
aussi,
humaniste.
Qu'elle
devienne humaniste. Et donc, pour moi, l'école, bon, je l'ai dit, écrit 150 fois, ça devrait être un lieu de vie, d'éducation et d'instruction sans qu'on établisse des barrières entre ces trois critères en supposant qu'il y en ait. C'est ça que devrait être l'école. Et ça devrait être un lieu de vie dans lequel l'enfant puisse structurer et mettre en place toutes ces possibilités, ces potentialités, ces compétences.
Alors, sur ça, on est bien d'accord, mais si on réduit le temps de la journée, qu'est-ce qui se passe après ce temps d'école, hein? Parce que ça va être encore du temps qui va être où l'enfant ne va pas pouvoir être chez lui. Tous les parents n'ont pas les possibilités de récupérer leur enfant à 4 heures de l'après-midi.
C'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut enfin parler des 24 heures de l'enfant.
Voilà.
C'est-à-dire des temps familiaux, en articulation avec les temps scolaires, en articulation avec les tiers-temps.
Et comment intégrer tout ça dans une vie de société où tous les jours on se lève très tôt pour aller travailler et se coucher très tard parce qu'on
Il faut en parler et y réfléchir d'abord.
C'est la question que je vous pose.
On est parmi les rares qui posent les questions comme ça.
Et qu'est-ce que vous apportez comme réponse?
Ça ne veut pas dire qu'on ait raison, bien entendu. Personne n'a jamais raison.
J'ai dit qu'est-ce que vous apportez comme réponse? Je n'ai pas dit qu'il y a raison.
Nous disons que les temps familiaux sont incontournables, bien entendu, mais qu'il faut permettre aux familles de vivre au mieux les temps familiaux. Et ça passe par de nombreuses choses, y compris bien évidemment l'absence de pauvreté et de misère dans les familles. L'absence de pauvreté et de misère. Ça passe aussi par réexamen des rythmes de travail. On parle des enfants fatigués, épuisés, mais vous savez... Des gens qui font 8 heures de travail dans la journée, ils rentrent chez eux épuisés.
Ils doivent faire les devoirs à ce moment-là.
Alors, les devoirs, ils sont interdits par une dizaine de circulaires ministérielles.
Et
ça rallonge encore la durée de la journée scolaire.
Il y a des enseignants avec une réaction peut-être dans la salle
6 heures de temps contraint, plus la durée des devoirs à la maison. Mais moi, je suis allé dans les cités. Vous avez des enfants qui, 2 heures après, sont encore en train d'essayer de résoudre le problème qu'on leur a demandé de résoudre. C'est pas normal. On ajoute encore de la fatigue, du stress, de la démotivation et du désamour pour l'école. Parce qu'un enfant qui est ainsi traité ne peut pas aimer l'école. Ça, c'est clair. Alors, il faudrait quand même se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut transmettre aux familles sans les culpabiliser, sans les stigmatiser. Bon, la première chose, c'est quand ils arrivent à l'école... leur donner le sentiment qu'ils existent en tant que personnes. Il faut absolument que chaque établissement scolaire soit doté de ce que j'appelle une sphère d'accueil de l'enfant et de ses parents, de façon qu'il y ait là un temps déminé, un temps neutre, entre guillemets, où finalement chacun se sente apaisé, rassuré, sécurisé, et puisse quitter finalement ses difficultés pour s'intéresser aux autres. Une serre d'accueil, donc on a décrit ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Maintenant, c'est important aussi d'élaborer des documents, qui ne soient pas des bréviaires, bien entendu, mais des documents qui permettent de comprendre aux familles ce que c'est que le sommeil d'un enfant, qui permettent aux familles de prendre conscience que s'il y a 5 enfants dans la famille, il y a 5 rythmes veille-sommeil différents, et que les gens... prennent conscience de ce qui se passe pendant le sommeil. Il y a des événements très importants liés au physiologique et liés au psychisme qui se passent pendant le sommeil. Alors, il serait temps quand même d'essayer au niveau des municipalités, au niveau des gens responsables, de transmettre une information. Alors on me dit quelquefois, vous allez les culpabiliser. À ce moment-là, on peut rien dire du tout. Il faut quand même organiser une information non stigmatisante, non culpabilisante. Mais ça, on commence à savoir le faire, ça. C'est vraiment fondamental. Maintenant... il faut aussi que les familles trouvent des points d'appui, des points d'ancrage en dehors de la famille. Et ça, il faut créer des structures nouvelles. Nous avons proposé, par exemple, une maison de la petite enfance pour accueillir les femmes enceintes, pour accueillir les jeunes filles qui ont un projet de maternité ou qui peut-être auront un projet de maternité plus tard, pour accueillir les familles en cours de constitution, peu ou prou, de façon que tous ces gens-là trouvent un lieu où on parle d'eux et on parle du bébé qu'ils attendent ou qu'ils souhaitent. C'est-à-dire qu'on intègre déjà l'enfant dans le psychisme des gens. Et ça, ces lieux d'accueil-là, il faut les inventer, parce que c'est, je vous parle des bébés, mais on peut dire la même chose aux différents âges. Nous avons également proposé qu'il y ait des crèches écoles enfantines, on peut les appeler autrement, pour accueillir sans rupture les enfants entre 2 et 4 ans, et que les familles soient associées au fonctionnement de ces structures, animées par une équipe pluridisciplinaire, entre 2 et 4 ans, dans laquelle il y ait des professeurs des écoles et des gens du RAZ, bien entendu. Donc, il faut faire preuve d'imagination pour enfin aider les familles à mieux vivre.
Alors, et encore faut-il que les familles puissent avoir le temps nécessaire pour participer à cette vie d'éducation.
Définissons les conditions. Mais c'est à nous de donner des clés. Ça ne veut pas dire que nous avons raison, mais qu'on en discute, qu'on en parle. L'école, eh bien, il faut changer l'école, il faut refonder complètement l'école pour qu'elle fonctionne.
Est-ce qu'il faudrait une école sur 24 heures sur 24?
Mais je vous ai pas dit ça. Je vous ai expliqué.
Non, je posais des questions puisque il faut en apporter.
De façon naïve, oui. Bon, pas grave. Mais je vous ai expliqué que les différents temps de la journée n'étaient pas équivalents. Hein, c'est bien ça que je vous ai dit. Je vous ai pas dit pour autant que les enfants devaient passer 24 heures sur 24 à l'école. Maintenant, il y a le tiers temps. Et donc moi, je propose qu'il y ait une interaction forte entre les familles, l'école, les mairies, les associations, les clubs sportifs, etc.
Pour préciser, le tiers-temps, c'est le temps qui n'est ni celui de l'école, ni celui de la famille.
Voilà.
Donc,
De façon, justement, qu'un enfant puisse trouver des conditions telles qu'il puisse dépasser son insécurité affective en rencontrant une figure d'attachement sécure, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire une personne qui l'accueille sans le juger, sans le renvoyer à ses difficultés, sans renvoyer aux difficultés des parents, sans le culpabiliser, de façon extrêmement positive. Alors que souvent, quand un enfant arrive quelque part, eh bien, la première chose qu'on lui dit, mais, ah ben évidemment, t'as encore pas fait ça. Mais celui-ci, il est absolument insupportable. On l'accueille de façon négative. Et précisément, les Scandinaves savent accueillir les enfants de façon valorisante, de façon positive. Alors, et ça, c'est important.
Jacques Glaise, justement, par rapport à toutes ces remarques-là, est-ce que, et l'organisation entre la famille, l'école, le tiers-temps, est-ce qu'on n'a pas changé d'époque? Parce que, il était possible, dans la société industrielle, avec un cadre réglé, de donner des règles aux enfants, des départs, qui soient un peu calés sur le temps du travail, alors qu'aujourd'hui, on a une société du tertiaire, du service, de la flexibilité. Est-ce que finalement l'école n'est pas en train de s'adapter à cette société de la flexibilité où finalement les enfants vont avoir des horaires différentes et pas forcément quelque chose de régulier?
Enfin, moi je veux revenir quand même encore et insister sur le fait qu'il n'y a pas une école mais plusieurs écoles et que c'est ancien, hein. C'est-à-dire que justement il y a eu l'école de Jules Ferry qui a été une contestation de l'école de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui était dans les collèges
et de l'église
royaux et les lycées napoléoniens. Mais justement, l'école de Jules Ferry, entre guillemets, oui, elle a contesté l'Église en devenant laïque, mais par contre, elle a repris en partie, à l'origine, les structures ecclésiastiques des écoles des frères de Jean-Baptiste de La Salle. C'est-à-dire, en fait, notamment le prêche ecclésiastique. Hein. Donc, progressivement dans les écoles primaires, justement, on a transformé les méthodes et là où on les a transformées le plus, c'est dans les écoles maternelles, puisque là, on a utilisé complètement, hein, grâce à Pauline Kergomar, inspectrice générale de l'éducation nationale, de l'école maternelle, justement, on a utilisé les méthodes Montessori, c'est-à-dire où l'activité de l'enfant était prépondérante. On a mis des horaires très faibles au départ, avec justement des horaires de sieste qui respectaient les biorhythmes, hein, même si à ce moment-là on savait pas trop ce que ça voulait dire, mais les gens savaient un peu, mais essayaient, voilà. L'école républicaine de Jules Ferry, entre 1887 et 1923, elle fonctionne sur le prêche ecclésiastique. Mais à partir de 1923, les instructions officielles contestent cette vision de l'école et proposent qu'on mette en place les méthodes actives d'éducation, c'est-à-dire celles où l'enfant est au centre du projet de l'école. Et donc, dans ce cas-là, enfin, l'enfant. Justement, dans l'école, c'est pas l'enfant, c'est ça le problème, c'est que ce sont les enfants. C'est-à-dire c'est des groupes d'enfants qu'on est obligé de considérer comme homogènes entre guillemets et effectivement on va pas pouvoir en faire lever un à 8 heures et un à 10 heures, c'est pas possible ça. Voilà, donc en fait la structure institutionnelle de l'école elle contraint
et je vois rigide.
Voilà, elle est assez rigide. Mais dès lors qu'on utilise les méthodes actives d'éducation, c'est pour ça que je suis un grand partisan des méthodes actives d'éducation, qui sont prônées dans l'école primaire depuis 1923, évidemment, la chose est très différente, puisque dans les méthodes actives d'éducation, les enfants peuvent, en fonction du type de travail qui est extrêmement formaté à leur propre rythme, par exemple avec les fichiers autocorrectifs, etc., peuvent travailler à leur rythme. Et dans ce cas-là, on respecte davantage les biorhythmes. L'école qui n'a jamais respecté les rythmes de l'enfant, c'est le collège et le lycée. Cette école n'a jamais respecté les rythmes de l'enfant. C'est celle-là, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle, cette école-là, c'est pour ça que, par exemple, Thomas Arnold a créé le sport dans les écoles anglaises, parce que justement il voulait donner une place pour qu'il n'y ait pas seulement le cerveau de l'enfant disponible, en fait le temps de cerveau disponible pendant 60 heures par semaine, mais pour qu'il y ait aussi la possibilité d'une pratique corporelle, etc. Je termine. Et aujourd'hui, si on regarde les modèles, ils sont très différents. Le modèle de l'école primaire, globalement, fonctionne avec beaucoup de méthodes actives. Le modèle de l'enseignement secondaire continue à fonctionner de manière très traditionnelle. D'ailleurs, le volume horaire est très important aussi. Il est plus important la plupart du temps. Il est plutôt au-delà de 30 heures de cours. Et dans le lycée, les lycées techniques, les lycées professionnels, on peut être jusqu'à 40 heures de cours par semaine. Et, et effectivement, avec des durées scolaires extrêmement faibles. Donc je veux dire que, en fait, dire l'école, c'est pas l'école. Ce sont les écoles et la façon de faire l'école qui jouent un rôle dans cette question-là. Après, bien sûr que sur le plan du rythme de l'enfant, la question est autre. Enfin, elle se pose d'une autre manière.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du rythme de la petite enfance et de l'enfance, mais pas forcément des ados ou du collège et donc du lycée. C'est là aussi, il y a un gros travail à faire et on n'a pas du tout aborder ces différences entre les différentes tranches d'âge, mais là ça vaudrait peut-être le coup aussi d'y réfléchir.
On y a réfléchi. Mais
et qu'est-ce que vous apportez?
Tout d'abord, je veux dire que quand on dit l'école, c'est l'institution scolaire. Bon, si rien ne change, c'est parce que le pouvoir politique ne veut pas partager, il tient à garder l'école au sens d'institution scolaire sous son regard. Et c'est ça le fond du problème. Pour pouvoir reproduire les lignées de dirigeants, les lignées de bénéficiaires de la société telle qu'elle fonctionne, selon les lois du profit et du mercantilisme. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Alors, vous savez, pour le pouvoir politique, on va bien les laisser appliquer telle méthode, on va bien les laisser appliquer telle méthode, ça ne mange pas de pain, ça ne va rien changer fondamentalement. En fait, il y a différentes démarches qui existent, qu'il faut reconnaître. Moi, je les reconnais tous. Je suis incompétent, je ne sais pas trop ce que c'est que les méthodes pédagogiques, je ne suis pas du tout pédagogue, mais je les reconnais. Puis je sais qu'il y en a certaines qui sont plus souhaitables que d'autres.
En fait, vous dites qu'il faut plutôt que la société tourne autour de l'école, plutôt que l'école ne soit qu'une composante de la structure de la société.
Il faut redéfinir les finalités de l'école. Une école, pourquoi faire? Pour quels enfants? On fait comme si en 2011, les enfants étaient les mêmes qu'en 1950 ou en 1960. Pour quelle famille? On fait comme si les familles étaient les mêmes. Alors que maintenant, on ne sait même plus comment définir la famille. On ne sait même plus si c'est un concept. Pour quelle société? Société maintenant est différente d'il y a 50 ou 60 ans. Pour quels besoins de la société? Ils sont différents maintenant. Pour quelle culture avec un S et culture avec un S? Pour quelle différence, notamment ethnique? C'est clair, c'est à l'échelle du monde qu'il faut raisonner, c'est-à-dire à l'échelle de l'être humain.
Est-ce que ça ne devient pas une échelle trop grande, et c'est-à-dire d'y reporter le problème à un autre niveau et du coup pas les résoudre?
Mais le ministère de l'Éducation nationale, c'est une collection de technocrates qui ont pour mission de garder le pouvoir aux mains de gens qui gouvernent. C'est aussi simple que ça. Alors quelquefois, ils font l'illusion de changer, ils nous balancent des réformes. Mais la réforme, c'est la meilleure façon de ne rien changer. Ça, c'est très clair. On le voit bien, d'ailleurs, avec la réforme des rythmes scolaires. On a composé une conférence nationale sur les rythmes scolaires qui est tellement hétérogène, hétéroclite, patchwork, qu'il ne peut pas y avoir de construction au bénéfice de l'enfant, de la famille et de la société. Mais c'est ça le fond du problème. Et il faut bien que les gens se rendent compte que les réformes resteront un leurre. tant que l'on n'aura pas défini une école, pourquoi faire. Et c'est dans ce cadre-là que moi je situe ce qu'on appelle les rythmes biologiques ou biopsychologiques de l'enfant, tout en sachant bien que c'est un aspect de la question.
Ça va être le mot de la fin. Donc, monsieur Hubert Montagnier, monsieur Jacques Glaise, merci pour cette conversation.
Merci
à vous. Et je vous remercie pour la qualité de cette discussion. Je remercie aussi les personnes qui sont venues écouter cette émission en direct. Et merci à Fatna Mirono, d'Aumarche du Palais à Lodève, pour son accueil dans ce lieu magique du Temple de l'Art, où il y a aussi à boire et à manger pour ceux qui veulent en profiter. Merci à Adrien et à Olivier de Radio Pays d'Hérault pour la technique. Merci à Benjamin Karchen, car il saura pourquoi. Vous pouvez retrouver le thème développé ce soir dans le numéro 80 de C'est le Mag du mois de janvier. Et si vous souhaitez approfondir la question, vous pouvez aussi assister à la prochaine conférence qui se déroulera à Lodève le 21 janvier avec l'historien Antoine Prost. Je rappelle que C'est le Mag est disponible gratuitement chez les commerçants du territoire du pays Cœur d'Hérault ou sur le net www.c-lemag.com. L'émission a été enregistrée le vendredi 14 janvier et vous pouvez l'écouter sur Radio Pays d'Hérault le mardi 18 janvier à 21h et le vendredi 21 janvier à 10h. Et puis bien sûr sur le site de RPH, www.rphfm.org. Je rappelle les fréquences d'RPH, 89 FM à Pézenas, 96,7 à Lodève, 102,9 à Clermont-l'Hérault. C'était Café Converse, l'émission en public de C'est le Mag en partenariat avec Radio Pays d'Hérault. Merci à tous et à la prochaine.